chronique de la Ligue des droits de l'homme de Laval.
Alors, mesures, instructions, réglementations, restrictions se multiplient tant au niveau national qu'européen pour restreindre, vilipender, rejeter toute forme d'immigration. Ainsi, dernièrement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pris une instruction pour une vaste opération de contrôle d'identité dans les gares et dans les trains pour rechercher les personnes en situation irrégulière et les placer en centre de rétention administrative ou les renvoyer au-delà des frontières. Il convient d'examiner d'abord la légalité de cette instruction, puisqu'en application de la Cour d'arrêt du Cour de justice européenne de 2010, les contrôles doivent être aléatoires et non systématiques et ne devraient pas, selon l'article 78.2 du Code de procédure pénale, dépasser la durée de 12 heures, alors que l'instruction prévoit une séquence de 2 jours sans discontinuer. De plus, il est pour le moins étonnant que le ministre de l'Intérieur donne des ordres à la police judiciaire, qui est normalement sous le contrôle du procureur de la République. De surcroît, le Conseil constitutionnel ne cesse de rappeler que les contrôles d'identité ne doivent pas être généralisés, car cela serait contraire à la liberté d'aller et venir. Et qu'enfin, il est ordonné aux agents de la SNCF de pratiquer des contrôles de titres aux fins de contrôler l'identité puis le titre de séjour, ce qui constitue une preuve supplémentaire que le continuum de sécurité prôné par l'Intérieur est en réalité un continuum de surveillance qui octroie de facto à ses agents de la SNCF des pouvoirs relevant de la force publique et en contradiction avec l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Les syndicats de cheminots ont d'ailleurs appelé leurs membres à ne pas agir au-delà de leurs prérogatives. La Ligue des droits de l'homme dénonce une instruction qui donne en réalité un chèque en gris aux forces de l'ordre pour pratiquer des contrôles au faciès. Ces contrôles discriminatoires abîment la relation de la police avec la population et fragilisent le sentiment d'appartenance à la nation de personnes qui sont stigmatisées en violation de la promesse d'égalité devant la loi. Elle s'indigne enfin, de plus, que cette xénophobie croissante, alors que les pratiques de non-accueil dans les préfectures et les nouvelles dispositions ubuesques de la loi Darmanin sont à l'origine de la fabrique de sans-papiers, pour des personnes qui sont en réalité en droit d'avoir un titre de séjour ou d'être régularisées. Deuxième exemple. Le 16 juin dernier, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi adoptée déjà par le Sénat, visant à interdire aux personnes en situation irrégulière de se marier. Pour autant, le mariage est un droit proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, le principe de la liberté du mariage a une valeur constitutionnelle et implique le choix à toute personne de se marier avec la personne de son choix ou d'ailleurs de ne pas se marier. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà jugé la chose en ces termes, je cite, « Le respect de la liberté du mariage s'oppose à ce que le caractère irrégulier d'un étranger fasse obstacle par lui-même au mariage intéressé. » De plus, le procureur de la République dispose d'un pouvoir de s'opposer ou de sursoir à une célébration de mariage lorsqu'il existe des indices suffisants pour soupçonner l'absence d'intention matrimoniale. Le droit existant organise donc déjà la protection du consentement éclairé d'une union et il n'est donc nul besoin d'en rajouter. Si à ces deux dispositifs nationaux, on relie la proposition législative de la Commission européenne en avril dernier d'inscrire l'Égypte, la Tunisie et la Turquie sur la liste des pays d'origine sûrs, contrairement aux dispositions précédentes, il est aisé de comprendre que l'ensemble de ces mesures constituent de graves menaces sur les droits des personnes exilées. En effet, ces mesures ouvrent la voie à des procédures accélérées pour les ressortissants de ces pays pour un retour aux frontières ou dans des zones de transit, ce qui limite les garanties procédurales aux demandeurs pour résulter à la présomption de sécurité. Rappelons que l'immigration a toujours et reste une chance pour un pays comme la France. C'est une chance d'abord pour l'économie du pays et pour répondre à une demande de main-d'œuvre insuffisante dans certains secteurs. C'est une chance pour nos systèmes de protection sociale qui voient ainsi de nouveaux cotisants arriver. C'est enfin une chance culturelle par le brassage des idées qu'amène l'immigration avec son lot de créativité et de techniques nouvelles. Imaginons deux minutes, réfléchissons deux minutes. Qu'aurait été l'essor industriel français sans les hommes venus de Pologne travailler dans les mines de charbon au nord du pays? Qu'aurait été la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale sans l'immigration massive italienne ou portugaise dans le bâtiment? Laval peut s'enorgueillir, par exemple, à juste titre d'ailleurs, des mosaïques des bains-douches, œuvre d'un certain Odorico, issu d'une famille d'immigrés de la région de Frioul, au nord de l'Italie, à la fin du XIXe siècle. Alors oui, plutôt que de stigmatiser, d'humilier, de criminaliser, il est peut-être temps de regarder le phénomène de l'immigration froidement, sans jugement a priori, et de bâtir une véritable politique de l'accueil au bénéfice de chacun.